la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Il va faire chaud, très chaud cette semaine. Dans les prochains jours, Météo France devrait activer la vigilance orange canicule niveau 3 sur 4 dans plusieurs régions. Au-delà, jusqu'en fin de semaine, la vigilance canicule pourrait s'étendre à la quasi-totalité du territoire. Dans la capitale, le maximum pourrait se situer un tout petit peu dessous avec 37 degrés. La ville devrait surtout subir une succession de nuits tropicales, c'est-à-dire avec un thermomètre qui ne passe pas sous les 20 degrés. Il pourrait même ne pas faire moins de 25 degrés pendant le week-end, au moment le plus frais de la nuit. Pour considérer qu'une canicule est en cours, la température doit atteindre un certain niveau en journée, mais aussi ne pas passer sous un autre niveau la nuit, et ce pendant 3 jours d'affilée. Dans le cas de Paris, il faut atteindre 31 degrés la journée et ne pas passer sous les 21 degrés la nuit. C'est là où la ville fait les frais du même problème, l'îlot de chaleur urbain. Il s'agit d'un phénomène qui limite la baisse des températures en ville. Il est causé par l'absence de végétation et la présence de bitume. La densité de construction et leur hauteur nuisent aussi à la circulation de l'air. Le bâti emmagasine la chaleur, des matériaux de construction comme le béton, la brique ou la pierre captent aisément la chaleur le jour par le rayonnement solaire et la restituent progressivement dans l'atmosphère la nuit, empêchant l'air de se refroidir. C'est ainsi que l'écart peut atteindre jusqu'à une dizaine de degrés entre le centre d'une grande ville et sa périphérie. C'est le cas en Ile-de-France, entre les bords de Seine dans la capitale et les abords de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Il est encore difficile de dire quand les nuits tropicales prendront fin avec ce nouvel épisode caniculaire. La question est de savoir s'il se prolongera la semaine prochaine. Certains modèles météorologiques entrevoient la fin lundi 22 juin, d'autres anticipent que la canicule va durer, voire se renforcer. Et maintenant, c'est le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous recevons Anne-Charlotte, directrice de l'association MEDE, qui travaille sur les violences sexistes et sexuelles. Elle sera interviewée par Vladimir. Du côté du Zoom, on recevra Ambre-Charlotte Gratponche, responsable du festival Les Nuits Secrètes, qui sera interviewée par Ariane. Le Flash Info sera présenté par Gabriel, la chronique Actu par Coraline, et la chronique Libre, ce sera moi. Et tout de suite, c'est l'interview.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Et dans cette matinale, nous recevons Anne-Charlotte. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes la directrice de l'association MEDE, que vous travaillez sur les violences sexuelles et sexistes, notamment celles qui sont faites sur les jeunes et les mineurs. Votre association fait également des formations pour professionnels de santé, ainsi que de l'accueil de victimes et des sensibilisations. Et c'est Vladimir qui va vous interviewer. Bonjour Vladimir.
Bonsoir Fabien, bonsoir Anne-Charlotte Gelty. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Petite mise en garde d'abord pour les personnes qui pourraient être particulièrement heurtées par les sujets dont nous allons parler. Nous allons donc parler de violences sexuelles et de pénocriminalité ce soir. On va d'abord commencer par présenter l'association MEDE que vous représentez ce soir sur Radio Campus. Tout d'abord, par le nom MEDE. MEDE, c'est une figure mythologique grecque particulièrement complexe et tragique qui a été accusée d'avoir tué ses fils, elle a dû fuir de nombreuses fois dans sa vie, elle a été victime aussi de violences des hommes. Et pourquoi est-ce que ça a été important pour vous de choisir cette figure pour incarner votre association ?
Oui, alors on nous pose souvent la question. MEDE, c'est une figure emblématique et controversée, et ça nous intéressait beaucoup. Elle n'est pas lisse, et ça tombe bien, parce que les victimes qu'on accompagne, elles n'ont pas non plus des profils toujours très lisses. Et donc effectivement, elle a été accusée d'avoir tué ses enfants. Il y a plusieurs versions, une qui dit qu'elle a été accusée à tort. C'est surtout une victime du patriarcat, et c'était une magicienne et une femme forte, une femme aussi qui représentait la voix de toutes les femmes dans cette Grèce antique. Et donc ça nous intéressait beaucoup d'avoir comme figure comme ça, une femme aussi forte qui représente le combat pour les femmes. C'est elle qui a permis à Jason de récupérer la toison d'or. Voilà. Et aussi, on s'est dit que ça permettait de faire le jeu de mots avec Mayday Mayday, qui est le système à l'international du SOS pour une asso qui s'occupe de jeunes femmes en difficulté. Ça nous paraissait bien. Et puis, vous allez le voir, on fait beaucoup de jeux de mots au sein de l'association. On a un peu d'humour. Et donc, ça nous a permis de décliner en met des formations, met des ailes. On s'est dit, si demain on a une activité sportive, on l'appellera Médé Basket. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Eh ben c'est parfait, vous me tendez justement le prochain sujet pour parler un peu de, on va dire, vos actions dans l'association Médé qui se décline, on va dire, en trois pôles. Le premier, c'est Médézel, qui est un centre d'accueil que vous avez ouvert en 2023, votre premier centre d'accueil à Saint-Ouen, qui accueille, qui accompagne les jeunes filles de 15 à 25 ans qui sont victimes de violences. Et alors, comment est-ce que vous l'avez créé? Comment est-ce que vous choisissez les femmes à accueillir et comment vous les accompagnez au quotidien?
Alors effectivement, c'est une structure qui est née en 2023, mais on n'a pas découvert avec les expertes Médé, avec mes collègues, la thématique des violences il y a 2 ans et demi. Ça fait longtemps qu'on est engagé. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je dirige différentes structures d'accompagnement de victimes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette, que les jeunes femmes de 15 à 25 ans, on ne les retrouvait pas dans les associations classiques, que vraiment, elles étaient en dehors des radars. Moi, préalablement, j'ai dirigé un centre d'hébergement d'urgence pour jeunes femmes et on avait du mal à trouver des relais dans le soin. Et donc, on a décidé de monter cette structure spécifiquement pour ces jeunes femmes qui se trouvent être paradoxalement surexposées aux violences comparativement à leurs aînés et en même temps en dehors de toutes les structures, de toutes les politiques publiques. Donc on a décidé de monter à Saint-Ouen cet accueil de jour qui propose une prise en charge pluridisciplinaire. Donc dans l'équipe, on a 2 ostéos parce que la question du corps et des conséquences somatiques sur les victimes, elle est extrêmement importante. On a évidemment 2 psychologues parce que la question du psychotrauma et de la santé mentale, c'est aussi fondamental. Et une éducatrice qui propose aussi, qui est la porte d'entrée, une évaluation et un accompagnement social et éducatif, puisqu'on est face à des jeunes filles qui se posent plein de questions, qui ont été projetées comme ça d'un coup dans l'âge adulte. Et donc, ça nécessite cette prise en charge globale. On a également une sexologue conseillère conjugale et familiale qui propose des ateliers collectifs en santé sexuelle. Et puis d'autres intervenantes, on fait de l'individuel et du collectif. L'idée, c'est aussi de les accompagner dans l'insertion professionnelle, dans l'accès au droit. Et puis, c'est l'idée de proposer un lieu aussi de culture, un lieu ouvert, un lieu de rencontre avec des ciné-débats, avec des expos, où la porte d'entrée, c'est plus la culture et la sororité, pas que le fait d'être victime, et avec cette idée qu'on peut faire des allers-retours, justement, et de passer de ce statut d'objet rendu par les violences à celui de sujet politique, à celui de militante engagée dans les droits des femmes.
C'est une manière extrêmement importante et j'ai l'impression très très forte de pouvoir accompagner ces personnes-là et de pouvoir les renforcer aussi à travers tout ce travail de vivre en communauté que vous proposez. Au bout de 3 ans là, à peu près d'ouverture, qu'est-ce que vous constatez comme évolution dans leur parcours? Il y a combien déjà de jeunes femmes qui sont accompagnées et qu'est-ce que vous constatez dans cette évolution?
Alors depuis la création, il y a plus d'une centaine de jeunes filles qui ont été accompagnées. On propose des accompagnements au long cours. S'il y a besoin d'une prise en charge sur 2, 3, 4 années, tant qu'elles ont entre 15 et 25 ans, on continuera à les accompagner. C'est important parce qu'il y a beaucoup de structures qui font juste du repérage et de l'orientation. Là, c'est vraiment des psychothérapies vraiment sur le long terme. C'est important de le dire. On a décidé de faire du qualitatif et pas du quantitatif. Et donc l'évolution, c'est qu'on voit qu'elles viennent au rendez-vous. On voit qu'elles vont de mieux en mieux. Certaines sont en capacité de décrocher un emploi, de se sortir de situations de violence, de trouver un hébergement grâce à l'accompagnement de la collègue Clémentine. Voilà, on voit aussi les rencontres entre elles, le fait de sortir de l'isolement. Certaines, parce qu'on gère du risque suicidaire parfois, vont mieux. Il y a moins d'idées sombres, il y a moins d'addictions, il y a une sortie de la prostitution, il y a une capacité d'être dans des relations plus saines. Voilà, on a plein d'indicateurs à différents niveaux, social, santé mentale, physique, d'être capable d'aller vers le soin, de prendre un rendez-vous toute seule. Voilà, toutes ces choses-là nous permettent de voir un peu l'évolution.
Des évolutions politiques positives qui leur permettent peut-être de voler de leurs propres ailes, un peu comme le nom de cette initiative que vous proposez. Vous en proposez aussi une autre qui s'intitule Médé Formation, où vous proposez justement des formations professionnelles. Vous êtes labellisé Calliope, si je ne me trompe
pas.
Exactement. À qui s'adressent vos formations? À quel type de professionnels? Comment ça se passe?
Alors ça s'adresse à tout type de professionnels. Peut-être ce que j'ai pas dit, c'est qu'on est pour l'instant non sectorisé aussi sur l'accueil des victimes et qu'on a un soutien de la mairie de Paris. Donc on accompagne aussi des jeunes femmes parisiennes, des jeunes femmes du 93, un petit peu du 92. Donc voilà, ça dépend aussi de nos partenariats et de nos financements, mais c'était important de dire qu'on n'a pas de critères géographiques. Pour les formations, c'est la même chose. On se déplace dans toute la France pour aller former des professionnels qui souhaitent monter en compétence sur le repérage, l'accueil de la parole, la prise en charge, l'orientation des femmes victimes de violences. Et donc, on forme aussi bien des professionnels de santé, on forme des policiers, on forme des professionnels du champ du social.
Du champ du droit aussi
Et du champ du droit, bien évidemment. Tout professionnel qui souhaite se former. Un petit peu les entreprises qui aussi ont des obligations de sécurité au travail et qui souhaitent aussi prendre en considération la question des violences au travail, mais aussi des violences conjugales pour leurs collaborateurs. Donc voilà.
D'accord. Et troisième du coup volet de votre association, qui décidément a vraiment des activités riches et très complexes, c'est MEDE Prévention. Alors il s'agit de stages de responsabilisation à destination des auteurs de violences dans le cadre de la prévention de la récidive que vous faites dans des maisons d'arrêt. J'avais une question, donc on en avait déjà parlé un petit peu avant de prendre l'antenne. Est-ce que ces actions de prévention se placent du côté d'une certaine forme de justice restaurative, ou alors est-ce que vous, et quels effets vous constatez sur les prises de conscience et les évolutions de la part des agresseurs?
Alors, je te remercie de souligner ce qu'on a essayé de faire avec MEDE, c'est de toucher l'ensemble du spectre des violences par l'accompagnement des victimes, la formation des professionnels, les actions de sensibilisation. On fait aussi des actions en milieu scolaire pour prévenir dès le plus jeune âge les violences et le sexisme. Et puis, on a été parmi les premières, avec ma collègue Anaïs Voix, qui est psychologue, à se positionner, parmi les premières assos féministes, à se positionner dans le champ de la prise en charge des auteurs. Ça nous paraissait indispensable de pouvoir aussi participer à la lutte contre la récidive, puisque si demain, il n'y a plus d'agresseurs, il n'y aura plus de victimes, peut-être on pourra faire autre chose, je ne sais pas.
On parlera à la fin, j'ai justement une question là-dessus.
Voilà, donc oui, on intervient auprès des auteurs. Dans le cadre de condamnation, ce sont des personnes qui sont sous main de justice, en alternative aux poursuites ou en post-sentencielle, des personnes condamnées pour des faits de violence sexiste et sexuelle, et puis depuis récemment, avec une association d'aide pénale à Paris, on intervient aussi dans le cadre des stages de responsabilité parentale pour des parents qui ont été condamnés pour des faits de violence envers leurs enfants. Et donc, l'idée, c'est de travailler la responsabilisation, de travailler la compréhension de pourquoi est-ce que la loi vient s'immiscer dans la sphère privée, jusque dans le lit conjugal, jusque dans la manière dont vous éduquez vos enfants, et puis de comprendre la transgression, l'interdit, le passage à l'acte violent, la violence agie, les conséquences des violences sur les victimes, et puis dans une idée, de lutte contre la réitération ou la récidive de ces actes.
Est-ce que vous constatez justement dans ces travaux que vous menez justement avec ces auteurs, des prises de conscience progressives, des gens qui se remettent en question, qui comprennent d'où vient cette violence, de cette domination sur les corps? Est-ce qu'il y a une remise en cause? Est-ce qu'il y a un peu vraiment un travail en profondeur qui est fait? Est-ce que vous constatez un peu des effets positifs là-dessus?
Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire des choses qui servent à rien.
Ouais.
Donc je constate. Après, on est limité dans les moyens qui nous sont alloués et dans la durée de ces stages et les modalités d'intervention. On pourrait faire beaucoup mieux, mais ce qu'on nous permet de faire sur des stages de 1 à 2 journées, c'est quand même de mettre de la pensée, de mettre de la réflexion. Et donc oui, on voit la lumière qui s'allume chez certains, pas tous. Tout le monde n'a pas cette capacité de remise en question, mais quand même, on arrive à déconstruire certains comportements. On arrive à leur faire prendre conscience de l'intérêt qu'ils ont à renoncer à cette violence. Et puis surtout, c'est d'aller vers du soin. C'est-à-dire qu'on met des petites graines, mais l'idée, c'est qu'ils continuent le travail après ces stages pour aller comprendre en thérapie ce qui s'est joué dans leur histoire. Pourquoi est-ce que, quand madame, elle répond pas, ça le met dans tel état? Pourquoi la jalousie, elle se transforme par des violences? Pourquoi il a besoin de la contrôler? Pourquoi il est autant angoissé? D'aller creuser. Je dis pas que les violences conjugales sont, ou les violences sexuelles sont une maladie, absolument pas. En revanche, des thérapies vraiment centrées sur le trauma permettent de comprendre ce qui se joue dans les passages à l'acte violent.
Est-ce que du coup, il y a justement ce défi entre traiter et parler de choses-là qui sont souvent circonscrites à vraiment quelque chose de familial ou des cas particuliers, en faisant vraiment des faits de société, en comprenant qu'il y a vraiment des structures sociales et des structures de domination? Est-ce qu'il y a un peu ce défi-là pour réussir à faire comprendre aux auteurs le fait que ça s'inscrit dans quelque chose de plus profond, et pas simplement d'individuel, mais aussi de collectif dans la manière de traiter les victimes?
Alors, c'est complètement notre positionnement au sein de MEDE. Que ce soit des assos féministes qui animent ces stages, ça nous paraît essentiel. Et dans nos modalités d'intervention, on est à deux voix avec ma collègue psychologue. Moi, j'ai plutôt fait des études de sciences politiques. Et donc, on intervient sur les deux niveaux, à la fois donc, sur leur vécu individuel, sur leur propre histoire, et en même temps sur la déconstruction des stéréotypes de genre, sur la construction de la virilité et sur ce qui se joue effectivement dans les représentations de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme et quelles sont les attentes dans le couple. Donc, on fait des allers-retours entre l'individu individuel et le collectif pour déconstruire toute cette société patriarcale avec eux.
Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir après cette petite pause.
Merci Anne-Charlotte, merci Vladimir. On fait une petite pause musicale et on écoute tout de suite Freedom de Frieda. C'était Freedom de Frieda.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Vous écoutez la matinale de 19h. Nous sommes avec Anne-Charlotte et nous parlons des violences sexuelles et sexistes sur les mineurs et les jeunes adultes. C'est à toi, Vladimir.
Oui, donc du coup, en première partie d'interview, on a parlé de l'association MEDE, dont tu es. On va se tutoyer finalement.
Je pense que c'est avec bien. Plaisir.
Dont tu es du coup la fondatrice et la directrice. Donc toutes les actions que vous avez menées. Et on va venir maintenant un peu sur l'actualité du moment. Un tout petit peu chargé sur ces questions-là, et en effet. Puisque bien entendu la France est secouée depuis plusieurs jours par l'affaire Liana. On va revenir, avant de revenir un peu sur cette affaire-là, sur peut-être un état des lieux que tu pourrais nous éclairer sur les violences sexuelles sur les enfants, sur les jeunes filles. Est-ce que du coup tu as quelques chiffres un peu à nous donner pour nous donner un peu un état des lieux de comment ça se passe en France ?
Oui, les chiffres, on les connaît depuis longtemps, notamment grâce aux enquêtes de victimation, grâce au travail de la Civise. Peut-être on peut retenir qu'il y a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, que 10% des Français auraient été victimes d'inceste en France. Que 10% des femmes sont exposées, sont victimes de violences au sein de leur couple. Voilà, ça fait quand même beaucoup, 3 enfants par classe qui sont victimes soit de violences sexuelles, soit qui grandissent dans un foyer violent. On comprend comment le système se reproduit de génération en génération et on voit bien l'ampleur du phénomène qui là nous saute aux yeux avec les différentes actualités. On a parlé de Bétarame, on a parlé du périscolaire, on a parlé là de l'affaire Liana, de PPDA, Patrick Bruel, DSK à l'époque. Bon, on a des affaires qui sortent comme ça. Pour nous, association qui sommes tous les jours auprès des victimes, c'est pas une découverte.
Et est-ce que tu dirais qu'il y a eu, notamment avec la vague MeToo, mais qui maintenant s'étend à de nombreux âges, et pas seulement aux femmes, mais aussi notamment aux enfants, est-ce que tu as l'impression, comme certains le disent, que c'est une affaire d'ouverture de la parole, ou alors plutôt de l'ouverture de l'écoute ? Parce que les victimes, on le dit, ont toujours parlé, et c'est juste une question de la société qui doit les écouter. Est-ce que tu es plutôt dans ce sens-là avec ton association MEDE ?
Non, je pense que les victimes ont toujours parlé, et qu'on a enfin ouvert nos oreilles. Il y avait un film, je crois, dans les années 70, qui s'appelait « La conspiration des oreilles bouchées », que je trouve très drôle et très d'actualité. Oui, on est en train de prendre conscience. Le curseur, le seuil de tolérance de notre société à ces violences-là de l'intime est en train de bouger et c'est très bien. Et donc, on se rend compte de l'ampleur de ce phénomène, du nombre de victimes, des conséquences que ça a et donc des moyens qu'il nous faut pour lutter efficacement contre toutes ces violences.
Et justement, du coup, dans le cadre de l'affaire Liana, il y a aussi une réponse politique qui est demandée. Un petit rappel, du coup, c'est un événement qui a secoué la France ces derniers jours. Le 29 mai, Liana, une petite fille de 11 ans, disparaît à Florence, dans le Gers. Et au terme de 7 jours de recherche acharnée, son corps sans vie est retrouvé dans un silo à grains abandonné. Le suspect principal dans l'affaire, Jérôme Barella, avait déjà fait l'objet de nombreuses plaintes et de nombreuses procédures judiciaires pour viol sur mineur. Et la justice ne s'était pas ressaisie, du coup, de son dossier avant. Donc c'est l'histoire aussi d'une défaillance importante du système judiciaire, car le dossier a été oublié et maltraité par la justice, qui aurait peut-être réussi à amener à une condamnation en amont en fait, de ce drame-là. Donc il y a beaucoup d'accusations qui pleuvent un petit peu partout. Beaucoup de personnes, notamment à droite et à l'extrême droite, qui accusent les juges, les magistrats de ne pas être saisis suffisamment tôt de cette affaire. On en parlait un peu tout à l'heure, il y a aussi des appels à remettre la peine de mort ou la castration chimique pour les auteurs de ces violences. Et le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a aussi fait l'objet de nombreuses accusations de d'autres pans de la société, notamment beaucoup du monde associatif, sur sa gestion aussi, budgétaire, politique, de la manière dont la justice peut se saisir de ces sujets-là. Il s'est défendu en disant qu'en tant que ministre de la Justice, il avait distribué des demandes, des ordres, en tout cas à la justice. Il se défend par rapport à ses directives en disant qu'il avait demandé à mettre en priorité la lutte contre les violences faites aux enfants, etc. Ce qui a été démenti par des enquêtes de Mediapart ou de Libération qui disaient qu'en fait ces directives-là ne concernaient absolument pas spécifiquement les violences contre les enfants, qu'ils publiaient énormément de directives qui ont un peu embrouillé le système judiciaire qui n'a pas vraiment réussi à répondre à tout ça. J'ai fait un peu long pour essayer de replacer un peu dans le contexte, mais en tant qu'association qui œuvre justement pour défendre ces violences, notamment les violences faites aux mineurs, où est-ce que tu places la responsabilité dans la faillite judiciaire de l'affaire Liana ? Est-ce qu'elle est judiciaire ? Est-ce qu'elle est plutôt politique ? Comment est-ce que tu te places par rapport à ça ?
Non, c'est une responsabilité collective. Là, le fait de pointer la justice, de trouver un bouc émissaire, c'est pas du tout comme ça qu'on va résoudre le problème des violences sexistes et sexuelles en France. Depuis des années, moi j'ai commencé à militer, à travailler en 2005. On parlait déjà d'une loi cadre inspirée du modèle espagnol qui avait voté cette loi, si je dis pas de bêtises, en 2004. Les associations, les experts, les sociologues, enfin, il y a un nombre de chercheurs qui ont montré les solutions, on les connaît. Il faut des moyens. Il faut des moyens pour la prévention. Il faut des moyens à l'école pour le repérage. Il faut des services publics. Ça veut dire que oui, il faut des policiers dans les commissariats qui sont formés, qui sont en nombre pour pouvoir enquêter correctement, qui ont des moyens d'enquête. Il faut regarder quand même à quoi ça ressemble un commissariat, avec quel ordinateur ils travaillent. Enfin, c'est hallucinant. Il nous faut une justice, oui, qui est efficace, mais pour être efficace, il lui faut des moyens. En fait, la question des violences, on a eu une augmentation de je ne sais plus combien de pourcents de plaintes en plus. Enfin, les victimes vont déposer plainte. Comment on absorbe ça, cette demande ? Donc oui, il nous faut des magistrats, mais il nous faut des médecins à l'hôpital, il nous faut des médecins légistes dans les unités médico-judiciaires pour les constatations, il nous faut des psychologues, il faut des centres de psychotrauma, il faut des associations d'aide aux victimes, il faut des services publics, évidemment. C'est des moyens, des gens et des gens formés.
Est-ce que tu estimes justement que face à cette explosion, notamment des plaintes, comme on dit, hein, la parole a toujours été là, les victimes ont toujours parlé, mais avec cette explosion aussi de cette espèce de tissu un peu de la société civile qui se met en place, est-ce que tu dirais que la réponse politique n'est pas à la hauteur par rapport à cette augmentation, que, comme ils le disent, hein, les budgets de la justice, et ce qui est vrai, sous les différents mandats présidentiels ont été augmentés, ça c'est clair, enfin ils l'ont dit, mais est-ce que du coup tu penses qu'il y a une mauvaise allocation des ressources ? Est-ce que tu penses que c'est aussi une question d'adaptation du système judiciaire et policier par rapport à qui est défaillant à ce niveau-là ?
Oui, ça a été augmenté, mais on part de tellement loin. On a deux fois moins de magistrats par 100 000 habitants que la moyenne européenne.
Oui, on est à peu près, dans le cas de Florence, on était à 4, je crois, pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne, elle est plutôt autour de 24, je crois.
Ouais, et plus d'une trentaine, je crois, en Allemagne.
Ouais.
C'est une catastrophe. Non, on n'a pas assez de personnel en nombre, de personnel formé pour absorber et pour avoir des décisions de justice qui soient à la hauteur des besoins et qui correspondent aux infractions commises. Après, attention, moi je suis pas sur le tout répressif. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure en introduction, j'interviens dans le cadre de la prévention de la récidive. Il s'agit pas d'enfermer pendant des années et des années des délinquants ou des criminels. Quid de la prise en charge de ces auteurs en détention ? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là ? Comment est-ce qu'on travaille la responsabilisation ? La castration chimique, c'est absolument pas une réponse, on le sait très bien. La peine de mort, enfin, je veux dire, on devient, voilà, on voit les prémices du fascisme qui arrivent avec des discours qu'on pensait pas revenir et d'utiliser, d'instrumentaliser la question des violences faites aux femmes à des fins politiques qui servent un autre projet que celui de la lutte contre les inégalités, contre le sexisme et contre les violences. Je trouve ça très grave.
Et on a aussi beaucoup d'accusations contre le ministère de la Justice en disant que toutes ces directives qui étaient envoyées contre, enfin, des milliers de directives et d'ordres de ces dernières années étaient là surtout pour avoir un effet communicationnel, pour montrer que la justice agit, elle est forte, elle montre les gros bras. Mais en fait, c'est pas une manière, selon toi, de vraiment répondre à des questions fondamentales.
On a des effets d'annonce sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était la grande cause du quinquennat. On a eu le Grenelle des violences faites aux femmes. Sous Marlène Schiappa, où sont les budgets ? Quel est le budget pour le ministère des droits des femmes ? Est-ce que c'est à la hauteur de tous ces enfants, de toutes ces femmes qui sont violentées, qui sont incestées, qui sont violées régulièrement ?
Et donc du coup la situation là, comme tu le décris, et je pense que c'est aussi l'occasion de ces affaires là qui sont particulièrement tragiques et dures pour nombre de personnes qui y sont confrontées, de aussi faire le point sur tous les manquements qu'il y a, mais aussi de pouvoir réfléchir aussi aux solutions qu'on peut apporter à ces problèmes. Donc tu en as déjà un petit peu évoqué, il y a notamment le budget pour la justice, pour la police, il y a quelque chose de vraiment sociétal sur lequel se battre. Est-ce que tu dirais que les associations comme MEDE sont centrales aussi dans ce travail-là, parce qu'elles font le lien peut-être entre la société civile et les décideurs politiques ? Et est-ce que tu souhaiterais à terme que ces associations n'aient plus besoin d'exister, ou en tout cas n'aient plus besoin de faire ce travail-là ? Est-ce que tu penses qu'elles répondent à un manquement de l'État ?
On est des partenaires de l'État. Certaines sont pratiquement en délégation de service public. D'autres sont des collectifs plus militants. Voilà, je pense que c'est important que la vie associative soit dynamique et financée et libre en France. Pour l'instant, bah oui, on a besoin. Il faut savoir qu'il y a moins de 10% des victimes de violences sexuelles qui déposent plainte. Mmh. Donc en fait, là, les dysfonctionnements et la surcharge à la fois de la justice et de la police, c'est pas la totalité des victimes. Qui viennent...
90% non, mais
imaginons que toutes les victimes vont déposer plainte, alors là, tout le monde va être un petit peu en difficulté. Donc non, on a besoin de ces associations d'aide aux victimes, d'accompagnement, parce que pour certaines, la reconstruction, elle va se faire en dehors des tribunaux. Et c'est important qu'on ait des centres de psychotrauma, qu'on ait des associations avec des médecins, avec des psychologues, avec des juristes, avec des travailleurs sociaux qui puissent accompagner les victimes en parallèle, à côté du reste des services publics. Mais il faut, je le disais, je vais le redire, il nous faut des moyens et on travaille avec les services publics. On a besoin aussi d'avoir des centres d'hébergement d'urgence, des places de mise à l'abri pour les femmes victimes de violences. Toutes formes de violences confondues d'ailleurs, pas que les violences conjugales, pour aussi les violences intrafamiliales. Si je prends les jeunes filles de moins de 25 ans, on a très très peu de dispositifs qui leur permettent un accompagnement dédié, je le disais, mais aussi des centres d'hébergement spécifiques pour cette catégorie de population qui va fuir des mariages forcés, qui va fuir des violences intrafamiliales, de l'inceste et autres violences au domicile.
Il nous reste une petite minute pour aborder une dernière question. Comment est-ce que nous on peut faire, en tant qu'auditrices, auditeurs, en tant que personnes qui sont de la société civile, pour accompagner les dispositifs, les associations comme ça ? Est-ce que du coup tu as des conseils à nous donner pour accompagner MEDE ?
Oui, vous pouvez faire des dons à l'association et aux différentes associations. Vous pouvez signer la pétition pour une loi cadre en ce moment qui circule sur les réseaux et qui va nous permettre aussi de maintenir le rapport de force avec l'État. On peut aller manifester tous les lundis soir à 19h devant les tribunaux dans la France entière pour montrer notre mobilisation et demander des moyens. Voilà, on peut faire plein de choses. Et puis on peut aider sa copine, sa voisine si on est au courant d'une situation compliquée.
Eh ben, ça sera le mot de ma fin, de la fin. Merci infiniment Anne-Charlotte Gelty, directrice et fondatrice de l'association MEDE, d'avoir été avec nous sur Radio Campus. Merci.
Merci.
Eh bien, merci Anne-Charlotte, merci Vladimir, et on continue avec le Flash Info présenté par Gabriel.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour à toutes et à tous, voici l'essentiel de l'actualité. Tout d'abord, en France, il y a quelques jours, la mort de Liana, une collégienne de 11 ans dans le Gers, rappelait l'urgence d'agir pour la protection des mineurs. Aujourd'hui, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE, a remis son rapport d'évaluation au gouvernement. Celui-ci vise à tirer un bilan des 82 recommandations formulées en novembre 2023 qui mettaient en avant les mécanismes des violences sexuelles commises sur les enfants et en particulier l'inceste. Si 75% des préconisations ont commencé à être mises en place, seuls 28% sont aujourd'hui pleinement effectives. La commission estime que les progrès sont réels en matière de prévention et de repérage des violences, mais elle dénonce un retard important dans la réponse judiciaire. Elle réclame notamment plus de moyens et de réformes pour mieux protéger les 160 000 enfants victimes chaque année en France. Cette fois, international. Le journaliste de sport français Christophe Glaise, détenu en Algérie, a reçu une accréditation officielle de la FIFA pour couvrir la Coupe du Monde de football. D'habitude, particulièrement discret sur les questions géopolitiques, l'instance s'est cette fois-ci engagée publiquement pour la libération du reporter en participant à la médiatisation de sa détention. Pour rappel, le collaborateur des magazines SoFoot et Society, Christophe Glaise, a été arrêté le 28 mai 2024 pour avoir fait son métier et condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Sa famille espère dorénavant une grâce présidentielle. Toujours international, à Paris, des représentants des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes se sont réunis ce vendredi 12 juin suite à l'invitation du ministère des Affaires étrangères pour échanger autour d'une solution dite à deux États. Un an après la signature de l'appel de Paris, les participants souhaitent produire des recommandations concrètes avant le sommet du G7 qui se tiendra à Évian et maintenir la perspective d'une solution à deux États malgré un contexte régional particulièrement dégradé. Et encore international pour terminer. Enfin, le Premier ministre pakistanais a annoncé hier un accord entre les États-Unis et l'Iran destiné à mettre fin aux affrontements dans la région. Selon les informations communiquées, il permettrait l'ouverture du détroit d'Ormuz et l'ouverture de nouvelles négociations dans les 60 prochains jours. L'accord doit être signé officiellement ce vendredi en Suisse. Et c'est tout pour moi.
Merci Gabriel. Et on écoute tout de suite Metal Kid de Eloi.
De 0 10 en dynamite, je m'étais déjà brûlé les doigts. 4, 3, 2, 1, fallait m'y voir taper du pied sur les jolis bancs du lycée. À chasser la sérotonine, fusil chargé la médecine. Voudrais du métal à la place dans tout petit cœur affamé, dessiné par deux étoiles.
C'était Metal Kid de Eloi.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je suis avec Coraline. Coraline qui va nous parler des accords États-Unis-Iran.
Les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord de paix. C'est ce qu'a annoncé le Pakistan, médiateur du conflit entre les deux pays, avant que l'information ne soit confirmée par Washington et Téhéran dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 juin. Cette annonce intervient donc 3 mois et demi après le début de la guerre lancée par les États-Unis et Israël en Iran le 28 février dernier. Pour rappel, cette guerre a d'abord déstabilisé la région, avec notamment les attaques israéliennes au Liban, mais également a eu des répercussions économiques à l'échelle mondiale, provoquant par exemple la montée des prix du pétrole. Alors que contient concrètement cet accord, ou plutôt ce protocole d'accord ? Car il faut d'abord préciser que ce n'est pas un traité de paix finalisé. Il s'agit en réalité d'un accord cadre pour fixer les premiers principes, les grandes lignes d'un accord. Il va donc permettre l'ouverture de négociations plus poussées, de pourparlers, dans un délai de 60 jours pour parvenir, je cite, à un accord définitif. La signature doit être prévue ce vendredi 19 juin à Genève, en Suisse, et Gigi Vance, vice-président états-unien, a déjà annoncé sa venue. Parmi les points évoqués dans l'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran, on peut souligner, d'abord selon Donald Trump, la réouverture du détroit d'Ormuz, détroit qui représente en temps normal jusqu'à 25% du trafic mondial de pétrole, mais qui est partiellement fermé depuis le début du conflit. Ensuite, un cessez-le-feu, je cite, sur tous les fronts, y compris au Liban. Et enfin, la levée progressive de certaines sanctions contre l'Iran, notamment celles concernant la vente de son pétrole. Mais les modalités précises de ce protocole d'accord sont encore floues. Israël, qui n'est pas mentionné dans cet accord cadre, a annoncé ne pas retirer ses troupes du Liban et a même, la matinée avant l'annonce de ce protocole, mené des attaques meurtrières dans la banlieue sud de Beyrouth, ce qui va à l'encontre de ce que met en avant le protocole, à savoir une cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, en incluant spécifiquement le Liban. Il y a aussi la question du nucléaire iranien qui doit encore faire l'objet de négociations étant donné que les deux pays ne sont pas d'accord sur les modalités de démantèlement du programme nucléaire de Téhéran. Rendez-vous donc ce vendredi 19 juin à Genève pour la signature de ce protocole.
Eh bien merci Coraline et tout de suite on passe au Zoom.
Pardon. Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui dans le Zoom, nous recevons Ambre Charlotte Gradepanche, responsable communication du festival Les Nuits Secrètes. Le festival est dans les Hauts-de-France, c'est à 2 heures de Paris environ. Et c'est à toi Ryan, bonjour.
Bonsoir Ambre Charlotte Gradepanche.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté d'être ce soir au micro de Radio Campus Paris à 3 semaines du lancement des Nuits Secrètes, qui le sont de moins en moins secrètes. Le festival s'est installé dans le paysage avec presque un quart de siècle d'existence dans le Nord. Et cette année, des têtes d'affiches très populaires, Biclo et Oli, Mika, Yael, Feu Chatterton, mais aussi des étoiles montantes et des artistes indépendants encore sous les radars. Et justement, vous placez cette édition 2026 sous le signe de la découverte. Vous décrivez votre rôle comme celui d'un défricheur artistique à contre-courant des algorithmes. Est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à propulser des nouveaux talents sur le devant de la scène ?
Est-ce qu'on a du mal ? En tout cas, nous, on n'a pas de mal à les programmer. C'est un choix de pouvoir mettre sur scène les artistes qu'on aime et qu'on a envie de faire découvrir à notre public.
Ce qui fait l'ADN des Nuits Secrètes, c'est les parcours secrets. Pour celles et ceux qui nous écoutent, les festivaliers peuvent suivre un petit chemin mystère pour se retrouver face à un artiste lui aussi mystère, sans aucune info donnée à l'avance. Comment ça vous est venu cette idée ?
Alors c'est Olivier Conan, programmateur du festival et directeur artistique, qui a lancé les parcours secrets au départ, donc il y a 24 ans maintenant. Et donc le principe des parcours, c'est qu'on donne rendez-vous au public dans un lieu et on l'emmène quelque part, il ne sait pas où, voir un artiste qu'il découvre au moment où il commence à chanter. Je suis désolée de vous dire ça, j'entends tout ce que je dis, j'ai de l'écho, c'est pas très agréable.
On va regarder ça. Est-ce que plus que jamais on a besoin d'amener des gens vers de vraies découvertes musicales, alors des algorithmes où on choisit avec nos applis ce qu'on écoute ou alors on découvre par hasard? Est-ce qu'on a besoin de faire de vraies découvertes physiques?
Alors, les festivals, c'est avant tout un lieu de rencontre. C'est la promesse d'une expérience unique qui va être hors du commun, à vivre ensemble. Et nous, c'est ce qu'on cherche en programmant au sein des Nuits Secrètes. Ce qu'on veut, c'est que le public se retrouve et qu'il partage, qu'il communie, en fait, devant les artistes. Donc, c'est ce qui est essentiel pour nous, c'est que le public se retrouve, que nous, on les retrouve, bien évidemment, et de faire société ensemble le temps de 3 jours. Et de vivre différentes expériences, qui sont parfois des premières expériences d'ailleurs, lors des festivals, et qu'on essaie d'être une fabrique à souvenirs en fait.
Est-ce que sur les festivaliers, est-ce que vous constatez que les gens ont de la curiosité, vont voir ces artistes que vous dénichez, ou est-ce qu'on est plus attiré par les stars, par les stars qui sont programmées, qui sont les têtes d'affiche?
Bah, évidemment, le public vient voir les stars. Je veux dire, on vend du rêve, hein. C'est notre métier. Par contre, c'est quand même ce qui est super avec le modèle des festivals, c'est qu'on vient peut-être pour une tête d'affiche, mais en attendant, on peut avoir 15, 16 concerts avant de voir sa tête d'affiche. Et donc, forcément, ça participe à la découverte. Et puis, tout n'est pas binaire. Je pense aussi que le public est globalement très curieux, a envie de découvrir. Sinon, il viendrait pas chez nous de toute manière. Et puis c'est tout le principe des festivals, et c'est pour ça qu'il faut continuer de rendre visite aux festivals indépendants notamment.
Et il y a justement, il y a plein d'artistes qui ont été d'abord des surprises sur ces parcours secrets. Vous listez Clara Luciani, Yael Naïm, Zao de Sagazan, Eddie de Preto. Comment est-ce que vous faites pour repérer un artiste qui a du potentiel?
Alors, on a de super programmateurs, ils sont 3 à faire ce travail chez nous. Et donc, ils passent leur année à écouter et à aller voir des shows et du live. Et en effet, parfois, certains des artistes, notamment des parcours secrets, ont une carrière plus internationale, en tout cas, ou en tout cas ce qu'on appelle des tubes. Par contre, ce n'est pas le succès des personnes qui participent, enfin le succès à venir des personnes au parcours qui font le sel de ces moments-là. Je veux dire, il y a plein de personnes qui ont participé, qui ont permis de créer des moments qui étaient hors du temps, parce qu'il y a une symbiose en fait entre le public et les artistes à ce moment-là. Ils sont pas sur scène, ils sont globalement amènent le sol face à 50, 100 personnes max, et donc évidemment, ils se créent un moment qui est hors du temps, avec des esthétiques musicales qui passent, enfin qui vont du tout au tout, et donc ça crée vraiment des passages qui restent vraiment marqués pour les artistes et pour le public.
Et justement, la musique live, pourquoi c'est encore important aujourd'hui d'aller voir les artistes sur scène pour ceux qui nous écoutent?
Parce qu'on est dans le vivant, on est dans le réel, et puis ça nous permet aussi de connecter et de sentir en vie. Je pense que c'est bien là l'essentiel, de faire des choses ensemble avec des personnes qu'on ne connaît pas autour de nous, c'est hyper important en fait.
Il y a des artistes, est-ce que c'est le but de ces nouveaux artistes que vous programmez aussi, de les faire connaître? Est-ce que ça fonctionne, un festival, pour lancer une carrière?
Je pense que indéniablement, ça reste toujours des tremplins, puisque comme je vous l'ai dit, le principe des festivals, c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent voir un artiste en particulier et qui font de la découverte. Donc forcément, par principe, il y a des artistes qui se font connaître grâce au festival. Oui, c'est assez logique.
On va parler de votre programmation qui est très très éclectique. On passe du mainstream à des artistes plus niches. Là, comme ça, pêle-mêle, Mika, Didier Super, This Is, mais aussi le groupe de techno-militants écolo Planète Boom Boom, mais aussi des jeunes artistes émergents comme Ino Casablanca, Sam Sauvage ou Adèle Castillon. Qu'est-ce qui guide vos choix de programmation? Parce qu'il y a plein de genres, plein d'artistes à des moments différents de leur carrière. C'est quoi la matrice qui fait que vous programmez un artiste?
On programme les artistes qu'on aime. Je pense que c'est pas plus complexe que ça. Vous avez démarré l'interview en disant qu'on était à l'heure des algorithmes. La programmation de festival, c'est Ça va à l'encontre de ça, c'est-à-dire que on coche pas des cases, on met sur scène des artistes qu'on a envie de valoriser, de faire découvrir, qu'on a envie d'écouter, en fait, tout simplement. C'est peut-être presque de l'égoïsme, mais en tout cas, nous, on est très fiers de cette programmation. Elle est large, elle est éclectique, elle est plurielle, à l'image de l'équipe du festival, en fait, aussi. Et c'est hyper important, en fait, d'offrir toute esthétique et puis de pas s'enfermer dans des carcans.
C'est
On est
qui?
libre, en fait.
Vous êtes libre. C'est qui aujourd'hui votre public cible, si on a un?
Toutes les personnes qui ont envie de venir faire la fête avec nous.
Entre nous, allez, quel artiste vous êtes pressé de voir sur scène, si vous avez le temps d'aller
Moi,
voir
personnellement,
les artistes?
bien. Moi, je suis très, très fan de Casablanca. Et puis j'ai jamais vu aussi, donc ça va être une découverte. C'est la découverte de cette année. Enfin, c'est un des albums que j'ai à titre personnel le plus écouté. Et sinon, enfin, je pense que comme beaucoup de personnes, je suis très amoureuse de Sébastien Tellier et je sais que ça va être un beau moment. Donc ça va être de beaux concerts, en effet.
Est-ce que pardonnez-moi, je suis un peu perdu. Voilà, Nuit Secrète, faut aussi parler du lieu. C'est né et ça reste dans le Nord. On va citer la commune, Aulnoye-Aymeries, c'est à 2 heures de Paris,
Tout à
pour ceux
fait.
qui nous écoutent près de Maubeuge.
En train direct.
En train direct, l'expérience Nuit Secrète, c'est aussi le lieu.
Oui, bien sûr. Tu sais, ça fait partie de ces festivals qui naissent dans des villes où à l'année, il y a 9 000 habitants. Et nous, on fait venir 52 000 personnes. Donc, tu vois, ce parallèle entre la ville à l'année et le festival, il est passionnant. Il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont nés à Aulnoye ou qui ont grandi en fait là-bas, et donc évidemment ça nous tient à cœur de proposer de la culture dans ces territoires qui sont hors métropole en fait, et de faire venir des artistes dans ces lieux dans lesquels en fait à l'année il y a pas en fait tout simplement les moyens de les accueillir, parce qu'il y a pas de grande scène, il y a pas de zénith, tu vois, à proximité. Et donc pour nous c'est hyper important de faire un festival dans cette ville qui peut être aussi un peu parfois éloigné des centres culturels majeurs de la France, en fait.
Et de fait, dans le public que vous voyez, il y a beaucoup de gens du Nord, ou est-ce que vous arrivez à attirer...
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a énormément de gens du département, de Lille aussi énormément, mais forcément c'est logique, c'est la métropole. Beaucoup de personnes des Hauts-de-France, en fait, de région de manière générale, et évidemment des Parisiens, parce que les prix d'entrée au départ, on est quand même beaucoup moins cher que globalement les festivals parisiens, en fait.
Alors j'ai cru, ouais.
Quand on met en vente, on a 90 € les passes 3 jours.
Et justement, j'ai cru comprendre cette année qu'il y avait des petits changements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
sur le site du festival.
Des changements cette année sur les lieux, sur les scènes,
Ouais,
sur les
en fait,
dispositifs.
on fait évoluer le festival cette année. Donc, comme je l'ai dit, en fait, il est né. Le festival, il vit avec la ville, en fait. Il est né à Aulnoye-Aymeries, il va y rester encore un peu. Et donc, il y a eu des travaux qui ont été effectués, donc c'était une évolution opportune. Ce changement, c'est pas une rupture, en fait. C'est une continuité dans l'histoire du festival qui ne cesse d'évoluer. Depuis sa création, en fait, le festival, il entretient un lien hyper fort, en fait, avec la ville et son territoire de manière générale. On est un festival du Nord, et ça, on l'assume parfaitement. Un site, il n'est jamais figé, il vit, il s'adapte, il se transforme, parce que sinon c'est très ennuyant en plus. Et puis cette capacité d'adaptation, elle fait partie de l'ADN des Nuits Secrètes. On a toujours su évoluer avec notre environnement, et le festival et la ville vivent main dans la main, en fait. Et puis c'est une nouvelle configuration qui est hyper inspirante en plus.
Et il reste encore des places, je le précise. Merci Ambre Charlotte Gradpanche, responsable de la communication du festival Nuit Secrète. C'est du
Avec
10 au
plaisir.
12 juillet à Aulnoye-Aymeries dans le Nord, à 2 heures de train de Paris donc.
Merci.
Eh bien, merci Anne-Charlotte, merci Ryan. Et tout de suite, on écoute Bambino de Bellboy.
partie. Crois-tu qu'on se ressemble encore? Crois-tu qu'on se ressemble? Crois-tu qu'on se ressemble encore?
C'était Bambino de Bellboy.
La matinale de 19h.
Et pour terminer cette émission, nous allons parler de la 12e édition de Partir en Livre. Elle aura lieu du 17 juin au 19 juillet 2026 et est organisée par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture. Le Festival National du Livre pour la jeunesse ne cesse de grandir et touche désormais plus de 300 000 enfants, adolescents et parents sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il y a plus de 6400 événements accueillis dans plus de 2000 communes en 2025 et la manifestation revient avec ses ateliers, jeux, spectacles et rencontres d'auteurs pour donner vie aux livres et à la lecture en allant directement au contact de la jeunesse dans tous les lieux qu'elle fréquente pendant la période estivale. Dans son quotidien ou sur son lieu de vacances, dans des bibliothèques et des librairies hors les murs, sur la plage et au pied des immeubles. Les bibliothèques de Paris participent à l'édition 2026 de Partir en Livre. Unique en son genre, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leur lieu et leur temps de loisir. Cette année, retrouvez de nombreux événements autour du thème « Nos petits et grands héros ». Et grands héros, pardon. Petits et grands sont invités à explorer l'univers foisonnant des héros. Une thématique forte et inspirante et fédératrice qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l'enfance et de l'adolescence. Au programme, des ateliers créatifs avec des illustrateurs, des spectacles et lectures musicales, des contes et surtout beaucoup de livres. C'est organisé par le Centre National du Livre sous l'impulsion du ministère de la Culture depuis 2015. Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes sur tout le territoire. Unique en son genre, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leur lieu et temps de loisir afin de transmettre le plaisir de lire. Parce que lire, c'est aussi se projeter, s'identifier, rêver, résister. Partir en Livre 2026 mettra en lumière la puissance des récits et des personnages qui, depuis toujours, accompagnent la jeunesse sur le chemin de la lecture et de l'émancipation. Car lire, c'est aussi un peu devenir le héros ou héroïne de sa propre histoire. Lors de la précédente édition, plus de 2000 communes et intercommunalités ont accueilli Partir en Livre, avec plus de 6400 animations gratuites organisées en France ainsi qu'à l'international. C'est gratuit et c'est pour tous les publics. Partir en Livre rassemble et soutient plusieurs milliers d'initiatives, rencontres avec des autrices et auteurs, attractions littéraires, lectures immersives, ateliers d'illustration et d'écriture, concerts dessinés, créatures d'un booktube, c'est une chaîne YouTube destinée aux livres, des ateliers manga, des bibliothèques de plage, des chasses aux livres, etc. Et bien entendu, des milliers de chèques lire offerts. Pour retrouver tous les événements, vous pouvez consulter le site partirenlivre.fr où vous retrouverez la carte des événements partout en France ainsi que toute la actualité du festival. Et l'émission se termine. Donc la matinale est terminée. Merci à Anne-Charlotte, directrice de l'association MEDE, ainsi qu'à Vladimir pour l'interview. Merci à Ambre-Charlotte Gradepanche ainsi qu'à Ryan pour le festival Les Nuits Secrètes. Merci à Gabriel pour le Flash Info. Merci à Coraline pour leurs chroniques respectives. À l'AREA, c'était Joé. À la coordination, c'était Luna. Restez à l'écoute tout de suite. C'est Il se passe quelque chose, une émission où l'on parle de poésie, suivie d'absence à 21h. La matinale revient demain à 19h. Passez une bonne soirée avec Radio Campus Paris. Bye bye.
Radio Campus.